L'Hérault Tourisme vous invite à la découverte des podcasts de l'Enotour de l'Hérault.
Bonjour les amis, vous connaissez l'Enotour de l'Hérault ? C'est de l'Enotourisme grand format. Rencontres gourmandes, artisans vignerons, caveaux étapes, patrimoine séculaire et des aventures. À pied, ce sont les Enorando, à vélo, les Enovélos. Plutôt alléchant, non ? Et pour décor, l'Hérault compte 7 destinations vignobles et découvertes. Une assurance de qualité et d'accueil professionnel sur tout le département. Bienvenue dans ces podcasts où nous allons à la rencontre de ceux qui en parlent le mieux. Aujourd'hui, je suis sur la destination vignoble et découverte Languedoc-Cœur d'Hérault. Et je suis bien accompagné avec Laure, Laure Charpentier. Bonjour Laure.
Et bonjour Jean-François.
Laure, nous avons déterminé aujourd'hui d'évoquer cette destination vignoble et découverte dans un lieu finalement qui cadre bien avec notre propos.
Ah, tout à fait. Montpérou est déjà le centre de la destination et en plus, être dans le caveau de Castelbary est un bel honneur pour faire cette petite entrevue ensemble.
Comment tu l'as décrit cette destination particulière, carrefour d'une vallée qui est la vallée de l'Hérault et aussi de certaines grandes voies qui sont des voies de circulation.
Exactement. Alors ce fameux carrefour comme tu évoques, c'est vraiment, je pense, ce qu'on peut en retirer comme aperçu quand on arrive, c'est un panel de paysages complètement différents, de terroirs qui vont se mixer les uns juste à côté des autres et qui font qu'on est sur 3 grands sites classés à portée de main. Et c'est justement un petit peu ce carrefour qui a fait que les hommes ont choisi justement ces lieux de passage depuis tout temps. Alors chaque grand site ou opération grand site a sa particularité, notamment si on peut commencer peut-être par Navacelles, celui qui est le plus au nord sur le Larzac méridional. On est à cheval entre Hérault et Gare. Là, on est déjà sur un creusement important qu'a fait cette rivière, la Vis, et qui a fait des méandres tout au long de son parcours. Plus de 50 km de mémoire, elle fait cette rivière et elle a creusé tellement ses causses qu'elle en est arrivée à faire des méandres. Ces méandres effondrés ont donné ce fameux cirque de Navacelles. Et là, on est déjà dans ce premier grand site de France, majestueux, qui est le plus ancien des trois, je crois me souvenir, et qui, quand on arrive sur le plateau, nous amène à quelque chose tellement gigantesque, c'est difficile de se le représenter avant de le voir. Voilà, cette fameuse huître, on l'appelle, c'est un cirque fabuleux. Ensuite, le deuxième grand site, on descend un peu plus bas, ça va être Saint-Guillaume-le-Désert, avec toute son histoire chargée depuis le Moyen-Âge, voire même avant, puisqu'on a quand même la présence humaine depuis 804 à peu près, donc c'est pas rien. Et puis, en redescendant, cette vallée de l'Hérault, ces gorges de l'Hérault, on va s'ouvrir un petit peu plus sur la vallée et tomber sur cette vallée du Salagou, donc qui est le site en pleine opération depuis plusieurs années, grand site, et qui s'appelle Salagou, Mourez, Villeneuve-et-Cabrières.
Et c'est un lac, il faut le rappeler, pour ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir déjà abordé.
Exactement.
Sur ce triangle-là,
oui.
Autour de ce triangle-là, il y a des vignes.
C'est ça.
Et ça s'appelle des aventures.
Tout à fait.
Alors, comment sont ces aventures-là ? Comment tu les décrirais ?
Chaque terroir va avoir justement cette particularité. Quand vous arrivez sur ces terres rouges du Salagou, avec ces roches noires sur les hauteurs volcaniques, c'est là que va s'exprimer tout ce terroir justement particulier, que ce soit les coteaux du Salagou notamment, donc avec ces terres volcaniques qui vont exprimer pas mal de leur saveur et senteur. Et ensuite, on a les portes de Saint-Guillaume-le-Désert avec les terrasses du Larzac, les grès de Montpellier, tous ces terroirs-là vont être sur des coteaux, vont être sur des cailloutis. C'est vraiment impressionnant de voir que chaque terroir va amener au vin quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qui fait cette particularité.
Toi, tu conduis des aventures. C'est ton métier. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure.
Exactement, je suis guide, accompagnatrice en montagne depuis 20 ans.
Génial. Alors tu vas nous accompagner. Raconte-nous quelques aventures qui te semblent être très emblématiques de cette destination.
Alors c'est vrai qu'il y a les senteurs qui parlent énormément quand on balade, que ce soit l'été, le printemps, l'automne, mais même l'hiver, on a encore toutes ces plantes aromatiques qui sont typiques de nos garrigues propres, où on a nos vignobles plantés tout autour, quoi. Et ces senteurs, ben forcément, ça passe d'abord par ça. Quand on arrive, il y a les couleurs de la roche, la géologie, mais il y a ces senteurs qui sont présentes, ce sont les cistes, ce sont le thym, le romarin, le fenouil, mais on va pousser plus loin avec des plantes beaucoup plus rares, notamment sur le bord du lac, avec des menthes pouillots. Et les gens repartent avec ces émotions-là. Il y a quelque chose de chargé au niveau émotionnel.
Ce que tu veux dire, c'est que si l'on se promène dans une aventure œno-touristique, on est bien, les vignes, on les a toujours en visuel, bien sûr. Et quelle que soit la saison, toi, tu dis, le premier rapport peut être celui de l'olfactif, c'est-à-dire ça sent bon.
Exactement.
Et c'est riche.
Ah, tout à fait. Parce que c'est ça qu'on va retrouver dans les vins après, dans la dégustation. C'est le fameux terroir. Et ce terroir-là, on l'a tout autour de nous avec ces plantes aromatiques.
En termes d'équipement, c'est-à-dire se préoccuper de savoir s'il y a assez de sentiers, s'ils sont bien balisés et s'ils ouvrent des balcons sur des paysages, est-ce que là, tu peux nous en dire?
Ah, tout à fait. Alors, chaque grand site dans cette destination est réputée pour tous ces beaux sentiers qui ont été créés tout autour de ces grands sites et à l'intérieur de ces grands sites, que ce soit Saint-Guilhem, Navacelles ou le Salagou. Malgré tout, on a aussi des sentiers non balisés qui valent le détour et c'est pour ça que j'amène aussi mes randonneurs à découvrir au plus près de ces vignobles et de ces terroirs, au plus près de ces propriétaires et de ces vignerons pour avoir justement ce ressenti-là.
Ils ont un caractère que tu pourrais qualifier, ces vignerons, parce qu'on n'est pas dans des latifundias, il faut le rappeler. Ici, ce sont des, je mets des guillemets, mais on a beaucoup de petits propriétaires.
Ah, exactement, on n'est pas sur des très gros propriétaires terriens, quoique il y en a quelques-uns, mais on est vraiment sur souvent des propriétés familiales, de père en fils, de 4-5 générations, voire plus. Et il faut vraiment en vouloir pour arriver à vivre de ça. Et il faut être passionné. Si on n'a pas la passion, si on n'a pas la niaque un petit peu de ça, c'est beaucoup plus difficile de tenir parce que c'est pas évident non plus, on le sait, tous les métiers de la terre, il faut quand même les travailler, être là au quotidien pour pouvoir avoir un rendu avec du raisin et du vin.
Il m'est arrivé d'en rencontrer, tu t'en doutes.
Oui.
Moi, ce qui m'avait frappé dans ce public-là, de ces vignerons et vignerons, c'est qu'il y a pas mal de jeunes.
Non, tu ne te trompes pas. Je pense qu'on a réellement les jeunes. C'est peut-être justement les 3e, 4e génération qu'on évoquait. Je pense à Delphine sur le Salagou, avec qui je vais régulièrement travailler, faire déguster des vins aussi. Et c'est complètement ça. On est sur une nouvelle génération qui reprend le dessus sur des fois d'autres valeurs aussi, beaucoup plus respectueuses de la terre, beaucoup plus proches de ce milieu-là.
Des jeunes, je disais, mais aussi des femmes. Alors ça aussi, c'est un sentiment, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup plus de femmes qu'on imagine, vigneronnes, et qui peuvent nous accueillir après être descendues de leur tracteur.
Ah, tout à fait. J'en ai plein en tête. Il y a beaucoup de femmes qui me saluent autour de leur vigne quand je passe près d'elles en randonnée avec mes groupes.
Alors, on parle de saveurs, bien sûr. Quand
oui.
On parle de vin, on parle de saveurs. Y a-t-il d'autres saveurs qui seraient celles de ce que l'on qualifie le produit du terroir qu'il ne faudrait pas rater?
Alors, effectivement, ça c'est une très bonne question, mais en fait, chaque saveur va avoir sa particularité quand même, qu'on soit sur des calcaires, qu'on soit sur des schistes, parce qu'on a quand même des appellations très importantes avec des schistes, on est sur des basaltes, on est sur ces grès, les fameux grès de Montpellier, tout ça va faire qu'on va avoir une particularité propre à chaque terroir. Et c'est ça qu'on va rechercher. Donc là, après, c'est propre aux sensations de chacun, à quoi ça fait rappeler justement ce fameux olfactif et ces fameuses senteurs et parfums qu'on peut avoir et qui nous rappellent des fois l'enfance, des sensations émouvante, voilà, qui nous touche. Et c'est en ça que chacun va avoir un petit peu plus sa préférence, on va dire, d'un terroir à l'autre.
Tu racontes des histoires, j'imagine, tu accompagnes ceux qui ont choisi de faire de toi leur guide pour une journée. Est-ce qu'il y a des légendes ici ?
Ah oui, il y en a pas mal. Il y a celle du Pont du Diable, notamment, on est à côté, donc elle est un petit peu à la limite entre justement Montpérou, où nous sommes, et Saint-Guillaume-le-Désert. Lors de la construction de ce fameux pont entre Agnane et Saint-Jean-de-Fosse, il fallait, pour traverser ce fleuve Hérault, hein, beaucoup de difficultés avant la création de ce pont au Moyen-Âge. Et donc, ils ont décidé que les deux communes devaient bâtir ce pont pour faciliter la vie de tout le monde. Sauf que le diable, passant par là, malheureusement, a décidé qu'il prendrait la première vie de ce pont. Sinon, il détruirait le pont à chaque fois qu'il y aurait des avancées dessus. Alors, les deux se cassèrent la tête à réfléchir comment faire pour gruger ce diable. Et d'accord, ils passèrent ce pacte avec le diable. Et la première vie qui passait sur le pont fut un chien. Et donc, le diable, fou de colère, plongea au pied du pont et ne put le détruire. On n'entendra plus jamais parler de lui, d'où le nom de Pont du Diable.
Aujourd'hui, il n'est plus là.
Il n'est plus là, heureusement pour nous.
On va avancer sur la grande histoire, ou la moins grande, celle du patrimoine. On a évoqué Saint-Guillaume-le-Désert et tu as parlé d'un patrimoine médiéval, très médiéval, hein, on est au 9e siècle.
Hein. Oui, tout début du 9e.
Ce n'est pas le seul des patrimoines qui raconte le grand récit du Languedoc.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a comme surprise particulière en termes de patrimoine?
Alors ce patrimoine que l'on a sur cette destination est très frappant puisque nous sommes aux portes de la mer Méditerranée. Donc on va avoir divers chemins antiques, notamment le Camis Salin, diverses voies gallo-romaines, principales ou secondaires. Nous avons aussi ces voies de commerce qu'on va retrouver au col de la Merquière, par exemple, derrière le lac du Salagou qui va repasser vers la vallée de l'Orme. Toutes ces voies de communication sont déjà nos bases à l'époque qui permettaient d'échanger entre les premiers vignobles, puisque on remonte bien hein, depuis l'époque gallo-romaine, hein, cette structuration sur notamment nos petits vignobles, on la retrouve depuis cette période-là, mais en plus cet échange qu'il pouvait y avoir entre les poteries qui étaient fabriquées beaucoup autour du fleuve Hérault, le sel qui conservait beaucoup, pas mal de denrées alimentaires, et les hauts plateaux où on va retrouver le bois à l'époque. L'Écosse était très boisée dans ces périodes-là. Et puis ces échanges, petit à petit, arrivent au Moyen-Âge où s'agrandissent ces voies de communication, se développent un peu plus ces villages prononcés. On parle de Saint-Guillaume-le-Désert, mais il y en a Saint-Jean-de-Fosse. On va avoir l'Odève qui était Luteva à l'époque gallo-romaine, Comtat d'Omagus, Millau un peu plus loin. C'est des axes importants par lesquels passaient nos commerçants. Voilà, en plein milieu de notre destination.
Il y a des châteaux. Il y a toujours des châteaux quand il y a des vignobles. Ces châteaux-là, eux aussi, ils racontent quelque chose ?
Alors oui, on a pas mal de châteaux. Je pense au château de Lozière, au-dessus d'Octon, au château de Malavieille également. On a le château d'Omelas à portée de main. Tous ces châteaux importants, le château du Géant de Saint-Guillaume-le-Désert, font que c'est des lieux qui étaient surveillés dans ces périodes de Moyen-Âge, qui permettaient de surveiller ces voies de communication qu'on évoquait.
On les a toujours en visuel, hein, j'imagine.
Ah, toujours. Quand ils sont marche. Perchés
sur
l'auteur.
Et puis on va dans d'autres petits châteaux, mais là, ce sont des châteaux où le vin
est mis en avant.
Est mis en avant, bien sûr. Là aussi, il y a un patrimoine, chez certains.
Oui, on va retrouver les structures de villas gallo-romaines, notamment en U, avec des cours intérieures. Aujourd'hui, on est sur des très belles propriétés, très souvent. Il ne faut pas s'imaginer le château comme les châteaux de la Loire, mais au contraire, des très belles propriétés qui découlent de cette période gallo-romaine et qui n'ont rien à voir avec les fameux châteaux perchés du Moyen-Âge et qui sont de toute beauté aujourd'hui, et souvent encore dans leur jus, par chance, parce que ça permet de voir un petit peu comment ils étaient à cette époque-là.
Avec parfois de beaux jardins et souvent des événements. C'est vivant, non, ce vignoble ?
Ah oui, c'est vivant. On a beaucoup d'animations, beaucoup d'événements, notamment le fascinant week-end qui fait partie des événements phares de Vignobles et Découvertes et qui nous permet justement de valoriser les vignerons avec les activités de pleine nature, comme je peux proposer en randonnée, mais également les restaurateurs, les offices de tourisme et tout ça fait qu'on est unis autour d'une et même chose, le vin.
Merci Laure, et on se retrouvera certainement au cours d'une de tes prochaines aventures, et je donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent sur une prochaine destination vignoble découverte héraultaise dans le cadre de l'un autour de l'Hérault. Au revoir.
Au revoir.
Un podcast réalisé par Black Pepper Productions et produit par Hérault Tourisme. Présentation Jean-François Pouget. Coordination David Kefelec.